Allez, en place. On va commencer de suite le bazar.
Mais qui a tué Clara à Saint-Jean-de-Maurienne?
Un Tom Hardy moustachu et musculeux.
Hugh Jackman qui défie la mort et la vie.
Vous êtes dans...
Pizza.
3.
Métrages.
Et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Pizza 3 Métrages, l'émission ciné à partager. Je suis avec Mathieu et... mais Maud
et non, Maud n'est pas là.
Maud n'est pas là, mais Maud où est-elle?
Maud a été grand remplacée par une intelligence artificielle exceptionnellement.
Oh là là.
Juste pour cette émission, car elle sera bientôt de retour.
Maud, on a besoin de toi, reviens-nous vite. Donc exceptionnellement, nous ne sommes que deux. Aujourd'hui, on va essayer de combler le vide, même si c'est totalement impossible. On va faire de notre mieux. Ce mois-ci, les trois films que nous chroniquons sont The Fountain de Darren Aronofsky, Bronson de Nicolas Winding Refn et La Nuit du 12 de Dominique Moll. Et nous allons commencer par The Fountain tout de suite après ce court extrait musical. Et nous revoilà dans Pizza 3 Métrages. Nous allons tout de suite parler de The Fountain. Et c'est Mathieu qui nous a proposé ce film.
Du coup, c'est moi qui commence?
Du coup, c'est toi qui commence.
D'accord.
C'est une main vraie, ce qu'on dit. Hein. Un seul être vous manque, tout est dépeuplé.
The Fountain, donc un film de Darren Aronofsky que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait chef-d'œuvre, un petit peu dérangeant, mais chef-d'œuvre quand même.
Un peu beaucoup dérangeant. Ouais.
Qui s'appelle Requiem for a Dream. Et il avait fait Pi aussi, que je n'ai pas vu, personnellement.
Un film pas facile non plus, hein. Sur un mathématicien psychotique.
Ok. Je suis obsédé par le chiffre pi et pourtant je n'ai pas vu ce film. Ah bah. C'est un manque.
Tu sais ce qu'il te reste à faire.
Exactement. Donc The Fountain, sorti en 2006, le 27 décembre exactement.
C'est important.
C'est primordial, j'ai envie de dire. Fondamental. Donc ça nous compte l'histoire du couple formé par Hugh Jackman et Rachel Weisz. Ouais, c'est un film un peu compliqué à pitcher, parce que il y a quand même trois époques différentes. Donc une qui se passe au temps des conquistadors, de ce qu'on appelle encore la Nouvelle Espagne, donc voilà l'Amérique du Sud, on va dire. En Espagne, on a toujours une reine, on a un inquisiteur qui étend son pouvoir. Donc ça c'est une période, on a une deuxième période plus contemporaine on va dire, où Hugh Jackman joue le rôle d'un médecin, chirurgien, voilà, il opère.
Neurologue de mes fesses.
Mais non Maurice, calmez-vous, posez-vous.
Et puis la troisième époque, qui on part un peu dans le métaphysique, hein, c'est un endroit qui n'existe pas, une sphère qui flotte dans l'espace. J'ai pas revu la bande-annonce aussi pour savoir un petit peu ce qui était montré.
Mm-hmm. Moi non plus.
Très philosophique, enfin, voilà, c'est un endroit qui...
T'as dit le mot, métaphysique.
Ouais, c'est ça. Et je suis tout de suite tombé amoureux de ce film parce que extrêmement beau, qui soulève forcément plein de questions, pas forcément au premier visionnage. Enfin, premier visionnage, on est pris par l'esthétique forcément.
Mm-hmm. Oui, pourquoi t'as voulu nous le proposer?
Pourquoi j'ai voulu vous le proposer? Darren Aronofsky, je trouve qu'il a une filmographie vraiment atypique, on va dire. Et pourquoi? Mais parce que la musique, c'est pour ça. En fait, je suis tombé plus amoureux de la musique que du reste. C'est que elle enveloppe les images de manière incroyable. Chaque plan a sa musique et on pourrait pas en mettre une autre. Clint Mansell, donc le compositeur qui avait fait la bande originale de Moon aussi.
Ouais. C'est vrai que c'est un très chouette film d'angoisse un peu bizarroïde.
Avec cet acteur là.
Sam Rockwell,
mm-hmm. évidemment. Bref, Clint Mansell, ouais, un compositeur à découvrir parce qu'on parle toujours du même, mm-hmm. Hans Zimmer, mais il n'y a pas que lui.
Voilà. Oh non.
Voilà. Donc Clint Mansell à découvrir. Et pourquoi j'ai voulu parler de ce film? Mais parce que voilà, j'ai vraiment une affection pour ce film. Je le trouve beau, il n'y a rien acheté.
Il est assez pur.
Ouais, et il y a tous ces petits plans symétriques aussi qui... chaque époque est filmée un peu la même... Enfin, on retrouve les mêmes plans à chaque époque.
Il y a les tonalités qui reviennent aussi.
Il y a des petits rappels, des petites phrases qu'on entend au début, on se dit mais d'où ça sort et tout, et finalement voilà, on a l'explication. Enfin, il faut voir le film en entier pour comprendre que ces trois époques sont forcément reliées et nous racontent une seule histoire. Mmh. Et puis oui, non, si ça m'a parlé parce que le côté je crois que je revenais d'Amérique du Sud.
Ah, ouais.
Donc forcément, Mostela, c'est plus Mexique, je crois. Mm-hmm. Moi, j'étais plus bas, hein, quand même, en voyage. Mais le côté chamanisme et tout ça, voilà, le côté un peu ésotérique, le côté l'homme n'est pas au centre du monde. On peut faire sans l'homme. Enfin, la planète Terre peut faire sans l'homme. Mm-hmm. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le film. C'est ce qui m'a plu dans ce film.
En plus de cette histoire d'amour assez belle, assez touchante.
Bah oui. Oui, sur ces deux personnages, Hugh Jackman, ouais, essaie de sauver sa femme qui est malade. Et donc on le voit se démener. pour arriver à ses fins, il y a une expérimentation qui est en cours avec un sujet animal. Et c'est très bien. Au casting, si on retrouve aussi la maman dans, qui est jouée dans Requiem for a Dream. Mmh. C'est elle qui gère un peu le service.
Ouais.
Et voilà, je sais pas pourquoi je pense à ça d'un coup. Ça
ouais, me, il y a une lumière qui s'allumait.
Oui, ding.
Ça y est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai plein d'idées.
Est-ce que tu veux que je reprenne la main?
Je t'en prie.
Je te donne un peu mon ressenti.
Je t'en prie.
Et ben moi, je ne l'avais pas vu depuis hyper longtemps. Je l'avais vu quasiment à sa sortie à l'époque. Donc c'était un plaisir de le revoir parce qu'il m'avait bien parlé à ce moment-là. Je trouve qu'il est totalement, effectivement, dans... la longue lignée des films d'Aronofsky qui sont très beaux visuellement parlant, très travaillés. En particulier les intérieurs, je trouve, où il travaille beaucoup son esthétique pour créer quelque chose d'onirique. C'est pas très réaliste, mais c'est très beau. Donc ça, déjà, ça parle bien. Et puis, il y a aussi une continuité, comme tu disais tout à l'heure, sur des symboles qu'on retrouve pendant tout le long du film, et en particulier le rond. Le rond, là, partout, tout le temps, sous la forme de la bulle, de l'anneau... À un moment, même Hugh Jackman est dans une salle d'attente. La salle d'attente est ronde, avec un canapé rond à l'intérieur. Voilà, on est prisonnier d'un cercle. Voilà, c'est quelque chose que, clairement, le réalisateur voulait absolument mettre dans son film. Et ça marche bien. Je trouve qu'effectivement, il y a cette espèce de continuité pendant toute la durée du film, d'éléments récurrents qui reviennent, qui ne sont pas toujours clairs au début, mais qui s'éclaircissent au fur et à mesure. Ces trois temporalités différentes qui, en même temps, sont coexistantes, parce qu'elles se complètent les unes les autres au fur et à mesure du film. Voilà, ça peut donner l'impression de donner des nœuds au cerveau un peu, cette histoire, mais finalement, c'est pas si non plus tortueux que ça. Je trouve que, mine de rien, ils ont respecté une forme de linéarité.
Tu vois, si t'arrives à débloquer ça, ça va te servir toute ta vie.
Une forme de continuité dans le film qui nous permet quand même de bien comprendre, il y a un début, une fin... Donc ça marche quand même plutôt bien.
Oui, j'ai eu l'impression qu'il y avait trois calques et qu'au final, ces trois calques, les uns sur les autres, forment un dessin.
Exactement. Ouais, c'est une bonne image. Je suis d'accord. C'est aussi, je trouve, un film assez absolutiste qui pousse ses idées à leur paroxysme. On sent qu'aussi Aronofsky, il est souvent comme ça dans ses films, il ne fait pas de concessions et il y va à fond. Donc c'est un style de cinéma, je comprends qu'il y a des gens pour qui c'est peut-être un peu trop, mais en même temps c'est beau aussi, c'est pour ça qu'on fait de l'art, c'est aussi pour parfois pousser des idées à fond, d'aller très loin. Il y a toute une réflexion sur les états de conscience modifiés aussi, parce que c'est aussi comme ça que le personnage de Hugh Jackman, dans sa troisième incarnation, parvient à se reconnecter à son passé. Donc ça parle voilà, de la méditation, mais aussi des substances qui permettent de modifier ses états de conscience. Mais c'est pareil, ça c'est un sujet récurrent chez lui, souvent des sujets qui prennent des drogues.
L'arc-en-ciel est juste une réflexion de la lumière à travers l'eau. Mais quoi? Mais ils ont pris de la drogue ou quoi?
Et il y a aussi quand même cette quête quasiment obsessionnelle pour vaincre la mort. Et comme tu le disais tout à l'heure, pour vaincre à la fois et la vie et la mort, parce qu'elles sont...
Tout ça, c'est lié. Hein.
Elles sont liées, elles sont c'est interdépendantes.
Voilà. La vie, la mort, le monde est grand.
C'est l'amour, la vie, la mort, c'est un peu les trois composantes de l'existence. Il n'y a pas d'amour sans vie, je pense. Il n'y a pas de vie sans amour. On ne peut pas vivre sans amour, c'est totalement impossible. Je ne parle pas que de l'amour sentimental, mais aussi le fait d'aimer faire les choses. Rien que manger, on aime manger. On préfère manger des bonnes choses plutôt que des choses qui n'ont pas de goût. La mort est aussi inhérente à la vie, on peut pas y couper. Donc voilà, c'est des piliers sur lesquels s'appuie l'existence. Et je crois aussi que ça parle un peu du karma, de la réincarnation. C'est là où le film devient plus métaphysique, je pense.
Ben oui, cette troisième strate, elle est un peu compliquée à comprendre. C'est vrai qu'au premier abord, on la trouve à part, parce qu'elle n'est pas du tout dans le monde matériel. Enfin, la première, c'est les conquistadors, on a un acteur qui fait ce qu'il fait. Pareil pour l'époque contemporaine. Et puis, il y a ce truc bizarre un peu...
Encore plus onirique.
Ouais. Il y a une étoile aussi.
Il y a l'histoire de l'étoile, de la nébuleuse. Dans les ce trois. N'est pas une étoile, c'est une nébuleuse.
C'est une nébuleuse, exactement. Chibalba.
Chibalba.
D'ailleurs, c'est un morceau sur la bande originale qui est juste incroyable. En passant. C'est le seul point commun. Enfin, c'est pas le seul point commun, mais Chibalba revient dans les trois époques.
Ouais, c'est vrai. C'est une sorte de clé de voûte ou de repère temporel, enfin de repère spatial. Il lève souvent la tête au ciel pour regarder cette lumière qui vient d'en haut.
Je passe sur le fait que c'est totalement impossible de voir une étoile à New York qu'on peut voir aussi en Amérique du Sud. Hein,
voilà, c'est pour la poésie.
Voilà, il faut oublier ça.
C'est un film très poétique, hein, je crois qu'on peut le dire de toute façon. Lyrique, romantique, un peu au sens littéraire du terme, où les sentiments sont mis en avant, beaucoup, l'attachement. Voilà, il y a cette lutte entre deux énergies différentes, celle de Rachel Weisz qui est dans la résiliation, dans la résilience, qui accepte un peu sa situation, ses conditions d'existence, et Hugh Jackman qui, au contraire, est dans un personnage qui est dans la lutte, dans la résistance, dans la volonté de repousser les limites humaines.
Bah elle, ça se fait pas naturellement. Au début, elle est très angoissée.
Elle est dans l'épreuve aussi, mais elle finit par accepter ce qui lui arrive comme une condition normale de la vie, finalement. Ouais.
Non, je trouvais très bien monté aussi, parce que du coup, dans l'époque contemporaine, on va pas trop en dire, mais il y a un livre qui est écrit par Rachel Weisz.
Ouais.
Et c'est vrai que on va retrouver. Ça va permettre de faire le lien entre les époques aussi. Enfin, entre une époque en particulier. Mais,
Et puis il y a cette très belle idée de terminer l'écriture du livre.
Oui.
C'est une très belle idée. C'est elle qui écrit le livre et puis elle le charge son mari de terminer l'écriture du livre.
Exactement.
C'était une très belle idée, je trouve.
Oui.
Et moi, ça m'a fait un peu un choc, mais j'avais oublié à quel point Hugh Jackman pouvait être un bon acteur.
Ouais.
Un peu. Je trouve que dans ce film, il est incroyable. Il n'a pas fait que Wolverine, même s'il est très bon en Wolverine. Hein, mais...
Je n'ai pas vu. Bah, super-héros, moi, j'ai un petit rejet.
Mais non, il joue super bien dans ce film, un peu dans le même genre de performance qu'il avait fait dans Prisoners de Denis Villeneuve.
Pas vu.
Où il est habité, où vraiment il donne le maximum, avec en plus son physique quand même qui ne passe pas inaperçu. J'étais assez impressionné.
Non, mais il est beau, Crâne Rasé. Enfin,
il est bel homme. Hein.
Ouais, il a une bonne tête. En
fait. C'est-à-dire ce qu'il est. Je suis un peu jaloux. Est-ce que tu avais d'autres choses en tête ?
Je voulais aussi dire qu'on voit énormément d'animation dans l'espace, comment expliquer ça ?
Des vues de l'espace, ouais.
Ouais, alors sans les étoiles, c'était plus dans justement ces nébuleuses, ces trucs très. Je vais pas réussir à le dire. C'est surtout la fin du film. En fait, quand tu as le générique de fin, tu as cette forme, ce truc qui semble se dissoudre un petit peu.
Ouais.
Et en fait, tout ça, il n'y a pas d'image numérique. En fait, c'est que du refait en laboratoire. En fait, on voit du tout petit. Quand tu jettes du lait, une goutte de lait dans de l'eau, ça fait un truc particulier.
Ouais.
Et en fait, tout ça a été reproduit naturellement. Il n'y a aucune image de synthèse pour toutes ces images-là.
Ouais, c'est très stylé.
Et j'ai trouvé ça très, très fort. Je crois que c'est dans le DVD où il y a un bonus qui explique ça. Alors, je n'ai pas ressorti mon DVD qui est en carton et au fin fond d'une grosse caisse en métal. Mais si vous avez le DVD, je pense qu'il y a un bonus là-dessus.
D'accord, qui nous démontre un peu comment ils ont fait les effets spéciaux sans utiliser le numérique. Ça, c'est chouette.
Ouais.
J'aime bien.
Je trouve ça très, très fort, très, très... et super bien réussi, quoi. Il y a peut-être un étalonnage différent pour au niveau des couleurs, machin, mais la volonté de faire quelque chose de très organique.
Ouais, physique.
Voilà.
Très bien.
Moi, c'était tout pour The Fountain.
Eh ben, c'est déjà pas mal.
Courez le voir.
Ouais, tout à fait. On va maintenant changer un tout petit peu d'ambiance, je crois.
Oui.
On va aller en Angleterre pour parler de Bronson. Et nous sommes de retour dans Pizza 3 métrages. Maud n'est pas là aujourd'hui. On va faire du mieux qu'on peut pour continuer l'émission. Mais elle reviendra vite. On parle maintenant de Branson, un film sorti en 2008, réalisé par Nicolas Winding Refn. C'est avec Tom Hardy et le directeur de la photographie s'appelle Larry Smith. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que je trouve que c'est un excellent directeur de la photographie. Il a notamment travaillé sur Eyes Wide Shut et je crois que c'est un des plus beaux films visuellement que j'ai vu. Et dans Branson, l'image est assez incroyable aussi, je trouve. De quoi ça parle ? Ça parle, c'est un biopic sur Michael Peterson, celui qui se fera appeler par la suite Charlie Bronson, connu pour être le prisonnier le plus violent d'Angleterre, réputé le plus violent d'Angleterre. Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu, Mathieu ?
Bah écoute, moi je ne connaissais pas du tout ce film. Tu m'avais dit que c'était l'un des premiers rôles, si ce n'est le premier rôle de Tom Hardy.
Celui qu'il avait révélé vraiment
celui qu'il révélé,
au grand public. Ouais.
Et on comprend pourquoi, en fait. Hein, en le voyant, c'est une sacrée performance.
Ouais.
Il peut avoir ce côté très flippant avec ce changement de visage quand il se met à sourire d'un coup de manière totalement diabolique. C'est flippant. Puis voilà, il a un physique et tout. D'ailleurs, son physique est... Il y a une scène, je me souviens, où il tourne en rond dans sa cellule.
Ouais.
Et en fait, c'est filmé certainement avec un fisheye et tout. Et parfois, ça se rapproche un peu trop près de lui et ça le déforme complètement. On a l'impression qu'il avait des biceps, mais énormes.
Ah ouais, il a fait une préparation de malade. Ouais.
Ouais, mais après, je pense que c'est accentué aussi avec la caméra, quoi. Mm-hmm. Avec la focale, exactement. Mm-hmm. Et ça rend trop bien. Ça lui fait parfois une toute petite tête et un corps, mais voilà, tu comprends que fallait mieux pas se mettre en travers de son chemin. Ce qui prend un malin plaisir à faire avec tous ces gardiens de prison, hein, parce qu'il aime bien la bagarre.
Il aime bien la bagarre, c'est un bagarre. Il est teigneux, le Tom.
Oui, parce qu'il a un but quand même, c'est d'être connu. Et il le dit très très bien, il fait un peu l'énumération de comment on peut être connu, et puis bon, il est bon dans pas grand-chose, il n'a pas de facilité dans quoi que ce soit, et donc la bagarre, quoi.
La bagarre, pour ça, il est bon. D'ailleurs, ça, je me permets un petit intermède, c'est un bonus, enfin c'est un bonus. Dans l'édition du DVD du film, le réalisateur, Nicolas Winding Refn, a rajouté une toute petite séquence en début de film, où il parle au spectateur, et il dit qu'en fait, c'est un biopic, ok, sur Michael Peterson, mais aussi sur lui-même. Donc cette histoire de mec qui veut devenir célèbre, c'est aussi un peu l'histoire de Refn, qui aussi voulait devenir quelqu'un, quoi. C'est un peu ça, Branson.
C'est un peu son modèle.
C'est un peu son modèle, sans doute, ouais.
D'accord.
Ils n'ont pas le même physique.
Hein, ils n'ont pas le même physique, ouais. Et non, après, j'ai trouvé ça, esthétiquement, j'ai trouvé ça magnifique.
Ça sort du lot, hein. C'est assez original comme proposition.
Bah ouais.
La séquence d'ouverture, par exemple. La première séquence du film, je trouve incroyable, personnellement. Elle met tout de suite dans l'ambiance où tu le vois tourner dans sa cage avec une lumière rouge. Il est un peu particulier en noir. Il a son armure, comme il dit. C'est pas vraiment une armure physique, on va dire. Il est en train de tourner dans sa cage comme un lion. Et ça met tout de suite dans l'ambiance, quoi. Non ? Je sais pas si t'as
fait ça. Ouais, c'est clair. Ben ouais, non, mais c'est là où je t'avais envoyé le message. Ah ouais, c'est cool, c'est encore un film léger avec des petits papillons dans la brise du printanier.
Tout à fait.
Et voilà, je m'étais arrêté là et j'avais regardé le chrono, il y avait 3 minutes.
Ouais,
3 minutes
ça.
De film. Tu dis, ah ouais, ok, ça annonce. Donc ouais, il y a vraiment plein de choses à en dire parce que moi j'ai pris, malgré ça, que la scène de début, je me suis dit, encore de la violence et du sang. Mais c'est pas que ça, parce qu'en fait, il y a énormément de scènes c'est de l'introspection. Il parle aussi à un public parce qu'en fait il a toujours rêvé d'avoir un public, donc finalement pourquoi pas le mettre dans le film, et ce n'est pas réel, mais Mais et ça, c'est trop bien fait. Je pense qu'il y a aussi une signification, parce qu'on le voit plusieurs fois, et à chaque fois, son visage change. Enfin, son visage, le maquillage qu'il a sur lui change. Et je pense, il faudrait que je le revoie pour...
C'est comme une seconde peau, ouais.
Bah ouais, ouais. Enfin, au tout début, il est complètement peint. Et puis à un moment donné, il a juste le visage. Et là, je me dis, tiens, changement, est-ce que c'est pas lui qui prend plus le dessus? Enfin, il y a un peu moins le personnage, un peu plus lui. Et puis ce volte-face là où il discute avec ça.
Avec l'infirmière.
Au début, je me dis, oh, l'effet spécial est trop bien. Puis en fait, non, pas du tout. C'est vraiment lui qui joue les deux. Non, vraiment très impressionnant.
C'est vrai.
Très, très impressionnant. Et puis ça montre. Alors, il ne côtoie pas que des prisons aussi. Je sais pas si on peut le dire, ça.
Si, bien sûr. On peut dire qu'il a quand même passé la grande majorité de sa vie en prison. Mais deux fois dans sa vie, une fois qu'il a commencé son parcours en prison, deux fois il a eu l'opportunité de sortir. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais en gros, la première fois, il est resté 56 jours ou 69 jours en liberté avant de retourner en tôle. Et la deuxième fois, c'est la même chose, une cinquantaine de jours avant de retomber en prison.
Ouais.
Donc, on a quand même un petit peu de ce vécu-là, c'est quelques moments où il est en liberté.
Ouais, ouais.
C'est ça dont tu veux
le dire. Il y a le côté en liberté, mais il y a aussi cette autre prison avec des... Mais c'est pas vraiment une prison. Mais
l'hôpital psychiatrique. Psy, ouais.
Moi, je me suis dit, mais c'est fini, quoi. Enfin, c'est fini, tu te dis, mais tu ne sortiras plus jamais de là. Enfin, vu comment il est...
Mais il est plein d'astuces, ce Charlie Bronson.
Complètement, et donc il arrive à sortir. Voilà.
Et d'ailleurs, le stratagème qu'il met en place pour sortir, c'est la vérité, c'est vraiment ce qui s'est passé.
D'accord.
De A à Z. L'histoire, pour le coup, est très fidèle, l'histoire du film est très fidèle à la réalité. Il y a pas mal de choses, hein. Je suis allé du coup fact-checker, je vous lirai ça tout à l'heure, mais je suis allé fact-checker quelques trucs sur la vie de Charlie Bronson. Je suis pas allé très très loin non plus, mais il y a quelques événements assez marrants.
Moi, je me suis demandé, à un moment donné, mais ce genre de personnage que tu ne peux pas raisonner...
Ingérable.
Ingérable. Mmh. À un moment donné, je me demande si... Enfin, t'as pas l'idée de... bon, faut s'en débarrasser, quoi.
Envoyez-le en France.
Non, mais plus radical que ça. Mais à un moment donné, à force de côtoyer des prisons, tu sais que tu ne peux rien en faire. On fait disparaître. Et puis la société s'en portera beaucoup mieux. Et pareil, on parle des dégâts qu'il fait en ville pendant ces 69 jours de liberté. Là. Non ?
Des dégâts en ville ? Non, il est en prison quand il fait tous ces dégâts.
Alors il y a un bout du film que j'ai pas compris, hein. Okay. Parce qu'on voit des personnages masqués sur le toit.
Ça c'est pendant qu'il est en prison.
Ah c'est pendant qu'il est
en prison. Ça c'est pendant qu'il... c'est les vraies images.
D'accord. Oui ça j'avais. Ouais. On voit que c'est les vraies images.
Et ouais c'est pendant qu'il est en prison.
Ok.
Bon je vais en parler tout de suite parce que vu qu'on est dessus là, cet épisode dont quel tu fais mention, c'est en 1983, il arrive à s'échapper, il organise une manifestation sur le toit de la prison de Broadmoor. Pendant 47 heures, il reste sur le toit et il cause pour 750 000 livres de dégâts, voilà, avec d'autres détenus. Il y a d'autres événements comme ça. Après, en 94, il prend en otage un garde et il demande comme rançon une poupée gonflable, un hélicoptère et une tasse de thé. Plus tard, en 98, dans une autre prison, parce qu'il a fréquenté plusieurs prisons différentes, ses demandes, encore après une prise d'otage, ses demandes, c'était un avion pour Cuba, deux Uzi avec 5000 cartouches et une assiette de haricots. Voilà, donc je pense qu'avec ce genre de truc, vous avez un peu un portrait du personnage Bronson.
C'est ça. Ben ouais, fou ou pas.
Ça. Il a des épisodes délirants, sans doute.
Ouais. Et c'est ça, en fait, si on avait pu lui mettre en tête, parce que il va être connu. Voilà, il égrène un peu, il parle de comédie, d'acteur, tout ça, et que bon, ça marche pas. Mais par contre, il y a une piste qu'il a pas dès le début. Et si on lui met cette piste-là, le côté artistique, si on lui met dès le début, bah, peut-être qu'il n'y a pas d'histoire, en fait.
Il n'y a pas la même chose.
Enfin, il n'y a pas d'histoire, il y a une autre histoire.
Il y a une autre histoire, ouais.
Et toi, on est peut-être passé à côté d'un Picasso ou d'un...
Bah finalement, on n'est pas passé à côté de ça, parce qu'il va finir par trouver sa voie.
Oui.
C'est ça aussi. Bah,
il est toujours en taule aujourd'hui.
Il est toujours en taule, mais ça, c'est sûr. Il continue de payer le prix pour son attitude par le passé. Mais aujourd'hui, c'est un artiste reconnu, très reconnu dans la communauté artistique. Il peint, il fait de la poésie aussi. Je sais qu'il a publié 11 livres.
Ok.
Et notamment un manuel d'entraînement d'exercice pour se maintenir en forme.
Intéressant.
Ouais, intéressant, ouais, dans un milieu avec un minimum d'espace et de ressources. Comment se muscler en prison ? Il faut savoir qu'il fait jusqu'à 2500 pompes par jour. Je répète, 2500 pompes par jour. Il y en a qui n'en feront jamais de 2500 toute leur vie. Beaucoup d'ailleurs.
Oui, même 250, je crois. Moi, je n'y suis pas encore.
Voilà. Donc un forcené vraiment de la musculation.
Ok. Et alors, comment il se fait appeler aujourd'hui ? Est-ce qu'il a gardé... Je pense que pour l'administration, il porte son nom...
Non, il a encore changé de nom. Maintenant, il se fait appeler Charles Salvador.
Salvador, comme...
Salvador Dali.
Eh oui.
C'est son mentor, un peu.
Oui, parce qu'on voit certains de ses dessins aussi pendant le film... Mais ouais, il est très 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 beau. Tu parlais du directeur de la photographie,
ouais.
Et on sent son boulot,
ouais, sur
ce film, mais très très fort, quoi.
Ouais, carrément. Je suis entièrement d'accord. L'image est magnifique, je trouve. Hein. C'est un truc qui m'a frappé, moi. C'est souvent le cas chez les films de Nicolas Winding Refn. Donc, si vous le situez pas, ce réalisateur, c'est celui qui a fait un film notamment assez connu il y a quelques années. C'était Drive. Avec Ryan Gosling, dans un tout autre style. Mais bon, quand on connaît un peu le réalisateur, on voit les points communs en termes de mise en scène. Il avait fait aussi Valhalla Rising avec Mads Mikkelsen et la trilogie Pusher au Danemark. C'est un réalisateur danois à la base. Il y a une image magnifique, mais il y a aussi une ambiance, je trouve, à couper au couteau, quoi. On rentre dans quelque chose d'assez âpre. C'est pas tout le temps lourd. Parce qu'on pourrait s'attendre à un film qui se passe en prison avec le prisonnier le plus violent d'Angleterre, on pourrait s'attendre à un truc morbide, ultra violent tout le temps, mais en fait c'est pas vraiment le cas, c'est plus que l'ambiance est très présente. Il y a des passages drôles, je pense qu'on peut le dire,
qui
font marrer, qui sont assez surprenants, originaux. Et puis ouais, la performance de Tom Hardy, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il donne tout, il crève l'écran littéralement sur ce film. Et il y a, je trouve, plusieurs réflexions quand même sur... La masculinité, je pense que tu as pensé la même chose, toi aussi. Carapace musculaire, mais aussi... moi, c'est un truc qui m'a amusé quand j'ai revu le film. Je l'ai vu quelques fois, ce film. Je ne l'avais pas vu depuis quelques années, là, mais du coup, je l'ai revu pour l'émission. Il y a une séquence qui m'a fait marrer, c'est quand il fait sa déclaration d'amour à une de ses copines. C'est... voilà, je vous invite à voir le film, je ne vais pas la spoiler parce que ça serait dommage si vous n'avez pas vu le film que je la spoil, mais c'est assez symptomatique de la complexité qu'il a pour exprimer ses sentiments, la difficulté qu'il a pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Et bon, je ne vais pas rentrer dans la dialectique de « on va plaindre les hommes », etc., parce que ce n'est pas ça, mais mine de rien, on nous a beaucoup éduqués, alors d'autant plus les hommes de son époque, à garder tous nos sentiments pour nous, à être plutôt des figures de marbre, insensibles. Et Branson, c'est un peu ça qui explose. C'est que c'est effectivement une bête physique. Il séduirait beaucoup de femmes rien qu'avec son physique. Mais il est complètement prisonnier de cette armure de chair. Il est incapable, en quelque sorte, de vivre quelque chose de sincère, sentimentalement parlant, j'ai l'impression. Il a une vraie difficulté à interagir avec les femmes.
Ouais. Après, j'ai eu la réflexion de me dire qu'il était pas fin non plus. Enfin,
il manque de subtilité, ouais.
Voilà.
Mais parce qu'il sait pas faire.
Mais oui, on lui a pas appris. Puis en même temps, il a choisi une vie qui fait que c'est surtout la confrontation.
C'est ça. Toujours la confrontation, ouais.
Donc.
Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai l'impression que personne ne se soucie de ce qu'il ressent. Jamais. Pendant tout le film. Même ses parents, il est proche de ses parents, mais. Les ouais. personnes qui côtoient, les femmes qui fréquentent, etc., on a l'impression que tout le monde s'en fiche de ce qu'il y a derrière ce corps. C'est vraiment l'incarnation du mal, mais sans dénué de sentiments.
Mmh. Oui, c'est vrai.
En fait, lui, une bête.
Je pensais aux gardiens de prison, mais forcément, les gardiens de prison ne sont pas là pour ça. Eux, ils voient que des malfrats qu'il faut corriger, donc... Forcément, on ne va pas prendre le temps de savoir ce qu'ils ont dans la tête et s'ils ressentent des choses et si machin. Mm-hmm. Mais effectivement, je n'avais pas fait le lien avec les parents. Après, la mère, tu sens que ce sera toujours son petit garçon et machin.
Qu'est-ce qu'il est beau, mon fils, parti là. Chauffe, chauffe. On dirait pas Roger Lanzac.
Malgré la brute qu'elle a en face, mm-hmm. mais qu'elle ne voit pas.
Ouais.
C'est un gros déni. Quand même.
Mais c'est marrant parce que sa tante, la vraie tante de Michael Peterson, de Branson, donc, parlait de lui, le décrivait enfant. Il disait que c'était un garçon aimant, qui s'occupait hyper bien des enfants, qui aimait beaucoup défendre les faibles.
Ah ouais.
Et donc ça peut expliquer certaines choses dans ce qui s'est passé par la suite, où il était complètement insupporté par l'injustice, notamment.
Ok.
Ça peut expliquer cette volonté de se battre aussi systématiquement, parce qu'il... Moi, je peux pas m'empêcher de voir un mec qui lutte contre le système, qui dit merde au système. Pardon.
Et lui, il est dedans. Il est dedans. Il est un peu. Il y a un côté cheval de Troie aussi, où il va
complètement.
Dans la
c'est exactement
pour foutre
ça.
Le dans la prison,
c'est exactement
quoi.
Ça.
Et c'est une volonté.
Ah, je suis complètement d'accord.
Ouais.
C'est exactement ça. C'est un cheval de Troie, c'est qu'il décide de détruire le système de l'intérieur, sous ses airs de je veux devenir célèbre, je veux devenir une star. En fait, il veut aussi tout dynamiter, quoi. C'est ça aussi qui est beau. Ça en fait un personnage complètement absurde dans notre société. Il a un côté cynique, je trouve, dans le sens philosophique, un peu à la Diogène. Alors, ceux qui connaissent Diogène de Sinope feront le lien, je pense. Mais c'est ce personnage qui passe son temps à faire vaciller les piliers de la société, qui ne supporte pas le statu quo, qu'on répète des erreurs, qu'on institutionnalise la violence... la souffrance, ce genre de choses, lui, il ne supporte pas ça. Parce que finalement, c'est un film qui est aussi anticarcéral, je pense. Et Branson, c'est un exemple unique, je pense. Il n'y en a pas à voir des tas, des mecs comme ça qui retournent en tôle presque volontairement, même si je pense que c'est un peu inconscient de sa part. Mais mine de rien, quand, à chaque fois qu'il sort de tôle, il y retourne tout de suite. Yeah. Et à chaque fois, pour des crimes, pour des délits complètement minables. C'est ça aussi qu'on ne vous a pas dit, mais à chaque fois, c'est des affaires complètement stupides où il... C'est comme s'il y allait volontairement, quoi. Mmh. Voilà. Ouais. Est-ce que j'avais noté d'autres choses, moi ? Ouais, moi, j'avais noté qu'il a été conditionné par la société. Probablement, voilà, comme on disait un peu plus tôt, sur ce côté très masculin, très viril. Mais aussi, il se conditionne lui-même par la suite. Mmh. Il continue, finalement, à entretenir ce processus-là jusqu'à un certain point. Et la découverte de l'art... va quand même le libérer, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il est non-violent. Il est toujours en tôle, mais il est non-violent. Je ne sais pas s'il continue son programme d'entraînement spartiate, mais j'imagine qu'il doit avoir quelques restes. Et il finit par trouver une forme d'ouverture. On vous laisse découvrir, si vous n'avez pas vu le film, comment ça se passe tout ça, et dans quel cadre ça se fait. C'est toujours assez original, comme d'habitude pour lui. Mais voilà. On est bon pour Branson ?
Ouais.
Très bien, il nous reste à parler du troisième film qui est La nuit du 12.
Thank you.
Et nous revoilà dans Pizza 3 métrages. Je suis avec Mathieu et nous allons maintenant parler de La Nuit du 12.
Et oui, alors c'était le film que Maud avait choisi.
Et oui.
Et du coup, elle n'est pas là pour en parler. Alors j'ai eu une idée un peu folle. C'est du coup de demander à cette intelligence artificielle dont tout le monde parle en ce moment, ChatGPT, pour avoir son avis un peu sur
Maud, tu as été grand remplacé par ChatGPT.
Exactement.
On est désolé.
Exceptionnellement.
Exceptionnellement. Voilà.
Donc j'ai commencé à lui demander ce que c'était. Est-ce qu'il connaissait La Nuit du 12 ?
Je ne connais pas La Nuit du 12.
Ouais, du coup, est-ce que tu connais Bastien Bouillon ?
Je ne connais pas Bastien Bouillon.
Bon, peut-être que tu connais Dominique Moll, du coup, le réalisateur.
Dominique Moll est un réalisateur et scénariste français. Il est surtout connu pour ses longs métrages. Harry, il est là pour aider.
Il est sympa.
Traduit par Harry, un ami qui vous veut du bien.
Dominique Moll travaille également comme scénariste et produit plusieurs films. Il est connu pour son style de narration sombre, psychologique et traitant souvent de la complexité des relations humaines.
Parce qu'au final, ça parle de... Donc, La Nuit du 12 parle de ça.
Ça parle de quoi ?
Ça parle de féminicide.
Ah !
Du coup, ChatGPT, est-ce que tu peux nous parler de féminicide ?
Le féminicide.
Ça suffit !
Également connu sous le nom de meurtre de femmes motivées par le sexe et le meurtre intentionnel de femmes parce qu'elles sont des femmes. Le terme féminicide est utilisé pour la première fois dans les années 70 et désigne le meurtre de femmes et a depuis été utilisé pour décrire un large éventail de violences sexistes à l'égard des femmes, notamment la violence domestique, les agressions sexuelles et d'autres formes de violence. Le féminicide est considéré comme une forme de violence sexiste et souvent utilisé pour désigner des meurtres motivés par la misogynie et le sexisme. Il est reconnu comme une grave violation des droits de l'homme.
Mais du coup, est-ce qu'on a des statistiques par rapport à ces féminicides en France ?
Je suis désolé, ma limite de connaissance est 2021. Je n'ai pas les statistiques les plus récentes sur le féminicide en France. Mais je peux vous dire que le féminicide a été un problème important en France ces dernières années. Selon un rapport du gouvernement français, en 2019, 122 femmes ont été tuées en moyenne chaque année par leur partenaire ou ex-partenaire. Le même rapport a montré que la violence domestique touche environ 220 000 femmes en France chaque année. C'est énorme, wesh. Le gouvernement français a pris un certain nombre de mesures pour résoudre...
Moi, ça me fait marrer, ça. qu'il arrive à sortir ça. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures.
Parce qu'il chope...
en mettant un ministre de l'Intérieur condamné pour viol, peut-être.
Accusé seulement. Ça te gêne pas de me couper la parole ? Il a pris un certain nombre de mesures pour résoudre le problème du féminicide, notamment en augmentant le financement des organisations qui fournissent des services aux victimes de violences domestiques. En renforçant les lois pour protéger les femmes des violences domestiques et en lançant des campagnes de sensibilisation du public pour sensibiliser à la question.
J'aime bien la répétition, tu as répété, je crois.
Attention, ça fait deux fois. Cependant, le féminicide est une question complexe et sa résolution nécessite une approche multidisciplinaire, qui implique non seulement des changements juridiques, mais aussi sociaux, éducatifs et économiques.
Je comprends pas l'économie, mais bon, ok.
Il en faut bien aussi.
Voilà.
Et le PIB, tu y penses ?
Merci ChatGPT, c'était vraiment très instructif.
Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant.
Avec plaisir, messieurs.
Ok, maintenant qu'on a... eu l'avis d'une intelligence supérieure et artificielle.
Oui. Passons aux choses sérieuses.
Qui ne remplacera pas Maud ?
Non, évidemment.
Passons aux choses sérieuses. Thomas, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film incroyable ? Eh bien, qu'est-ce que j'en ai pensé ?
Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Je m'étais pas posé la question, tiens. Alors,
tu connaissais pas ?
Je ne l'avais pas vu.
Je n'avais pas vu.
Tout à fait. Donc, c'est avec un grand plaisir que je l'ai découvert. Alors c'est dommage que Maud ne soit pas là pour en parler avec nous.
Mais complètement, en plus, c'est elle qui l'a choisi, donc elle a des choses bien plus intéressantes que ChatGPT.
A priori, ouais. Oui, donc c'est un film de Dominique Moll qui est sorti l'année dernière, qui parle d'un féminicide dans les Alpes. Et on est finalement dans un thriller, mais qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en France. Il y a eu quelques autres films un peu dans cette veine-là, à l'étranger, mais en France, je pense que... Moi, c'est un des pour moi, en tout cas, c'est un des meilleurs polars que j'ai vu dans cette veine-là.
Alors, je ne saurais te conseiller d'aller voir un autre film de Dominique Moll, du coup, qui s'appelle...
Ah oui, pas mal.
C'est son meilleur. Seules les bêtes, qui parle d'un féminicide aussi.
D'accord. Ok, et ben je n'ai
avec
pas
un casting incroyable.
D'accord.
En français, mais incroyable.
Ok. Il faudrait que je le voie. Donc, moi j'ai découvert en plus l'ambiance. Je ne savais pas de quoi ça parlait. Hein. J'ai quand même complètement découvert le film. Je ne suis pas forcément un habitué de ces paysages-là, des Alpes, etc. Je trouve que c'est très beau, mais j'y suis assez peu allé. Mais j'ai pris plaisir à voir une intrigue évoluer dans ce cadre. On a quand même des très très beaux paysages. Et j'ai bien aimé aussi la lumière naturaliste utilisée pour le film. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à proposer quelque chose de quasiment documentaire en termes d'image. Très souvent, on n'est pas dans une lumière vraiment artificielle. Enfin, il y a du rééclairage, mais c'est fait de manière suffisamment discrète pour qu'on ait l'impression que ce soit de la lumière naturaliste. On a des personnages forts, je trouve. Donc, on suit un groupe de policiers qui sont chargés de l'enquête. Et notamment, en particulier, le personnage principal, le protagoniste, c'est le chef d'équipe.
Chef de groupe.
C'est ça. Johan.
Johan, tout à fait.
Et c'est un personnage intéressant, un peu atypique. Il est presque mutique, il parle peu en tout cas.
Ouais, assez discret, effectivement.
Pas très loquace, comme vont dire certains des autres personnages. Mais il est très impliqué dans cette enquête. Ce meurtre vient réveiller en lui des questions, des interrogations sur la nature des hommes, sur le pourquoi de ces situations, pourquoi est-ce que c'est systémique. Pourquoi est-ce que ça se reproduit encore et encore, et pourquoi est-ce que ça se passe toujours dans ce sens-là? Y a d'autres personnages qui vont apparaître comme ça au fil du film. Je trouve que globalement, il y a une très bonne écriture dans ce film. J'ai vraiment bien aimé les dialogues. Y a pas mal de répliques qui font mouche. Et les derniers personnages qui arrivent plutôt vers la fin, c'est-à-dire la juge et la jeune policière, pareil, c'est des personnages qui apportent vraiment quelque chose à l'histoire. À la discussion que le film soulève. Et ça m'a bien plu. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Donc on a une réflexion sur la violence masculine, et celle en particulier dirigée à l'encontre des femmes. Et cette dualité que j'ai trouvé intéressante entre, du coup, protéger pour les policiers et tuer pour les meurtriers. À chaque fois, c'est des hommes. Enfin, c'est souvent des hommes qui sont policiers, et donc c'est des hommes qui tuent leur femme ou leur ex-compagne. Et on peut d'ailleurs essayer de lier ça avec, dans une approche psychologique, avec le surmoi, qui est la police de la pensée, et le ça, qui est pour le coup les pulsions. Et c'est un peu ces deux instances, avec le moi, qui gouvernent la pensée des hommes, des êtres humains en règle générale. Et je trouve que cette dualité s'exprime vraiment bien dans le film. D'ailleurs, ça continue d'aller plus loin, parce que on a aussi l'uniforme des policiers qui représente quelque chose, mais il y a cette histoire, elle vient toucher quelque chose en eux qui est sous l'uniforme, quoi. Ils sont plus juste des simples policiers. C'est des hommes aussi en dessous. Excusez-moi, j'ai très envie d'éternuer.
Je flingue le premier qui éternue sans ma permission.
Et donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai bien aimé cette histoire à plusieurs couches, finalement. On a l'histoire, finalement, de la société, mais on a aussi les histoires d'hommes, d'êtres humains, qui sont confrontés à cette violence intrinsèque, parce que ça questionne aussi la violence qu'on a tous en nous. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on peut la dominer ou la raisonner? C'est assez intéressant, puis c'est vraiment un problème sociétal sur lequel on continue de réfléchir, et on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour faire avancer les choses. Donc ouais, c'est quand même un film très intéressant, je trouve, qu'il faut voir, à mon avis. C'est rare, en plus, qu'on ait des films comme ça en France de cette qualité-là, à tous les niveaux. Je trouve qu'on a... Il n'y a pas de faille dans ce film, c'est bien écrit, bien joué, une belle réalisation.
Ouais, on a les Césars qui arrivent, là.
Ouais.
Il est multi-nominé.
C'est ça, ouais, une dizaine de nominations.
Bah ouais, moi aussi j'ai Alors, c'est dit dès le début. Donc,
ouais.
C'est, alors, on va revenir au début, c'est tiré d'un bouquin d'une personne qui s'appelle Pauline Guéna.
D'une journaliste.
D'une journaliste ouais, qui a été en immersion dans un commissariat et qui a pris, qui a accompagné, on va dire, plusieurs histoires de... Alors, je ne sais pas si c'est à chaque fois des meurtres irrésolus. Mais en tout cas, l'un des derniers du livre sera l'essence du film, donc La nuit du 12. Et donc on sait tout de suite que c'est un crime irrésolu. Mmh. Et c'est assez bizarre de voir un film comme ça. On sait
ouais.
que de toute manière, on ne trouvera pas. Mais,
peut-être.
Enfin.
Peut-être pas.
On aura une réponse, mais on n'aura pas de coupable. Mais effectivement, le héros principal, là, Johan, joué par Bastien Bouillon, il a sa réponse. Enfin, mmh. il a une ébauche de réponse qu'on ne peut pas dévoiler évidemment. Mais sa réflexion, elle est très très bonne. Et il se l'a fait 3 ans presque. Du coup, la juge d'instruction rouvre le dossier 3 ans plus tard. Donc lui, ça l'enchante pas du tout de revenir, de réouvrir cette affaire, parce mmh. qu'effectivement, toi, tu dis qu'elle vient réveiller des choses en lui, mais pour moi, je suis pas sûr que ça réveille des choses en lui. Par contre, ça va être l'affaire qui va le hanter, comme chaque policier peut avoir une affaire qui le hante.
Bah, ça réveille en lui des interrogations sur pourquoi ça arrive. Est-ce qu'il a ça aussi? En tout cas, c'est ce que je pense. Mais en tant qu'homme, on peut que parfois être dubitatif sur, en tout cas, en tant qu'homme non violent, on peut que dubitatif sur ces féminicides à répétition. Et pourquoi est-ce que c'est là? Parce que manifestement, c'est typique des hommes, en tout cas dans les hommes dans notre société. Donc c'est pour ça que je pense que je disais que ça réveille quelque chose en lui, une interrogation sur pourquoi les hommes. Est-ce que c'est inhérent à tous les hommes ou pas? Non, heureusement. Mm-hmm. Mais on nous initie quand même beaucoup à cette violence. Branson était un peu là-dessus aussi, le film Branson, c'était un peu là-dessus. On nous initie beaucoup à la violence. On a tendance parfois à la sous-estimer.
Mm-hmm. Et après ouais au niveau casting oui j'ai trouvé ça super bien joué Bastien Bouillon j'ai déjà vu plusieurs courts métrages avec lui mmh. et il a toujours sa petite tête de premier de la classe avec ses petits cheveux courts là et en fait dans ce film là il y a une scène où ils sont en voiture, ça parle de t'es énervé. Non, ouais. Je suis pas énervé. Si, t'es énervé. Ben non, je suis pas énervé. Bon.
Non, je vais m'énerver si tu continues.
Oui, voilà. Et en fait, là, je l'ai trouvé très, très juste. Enfin, dans le sens où. Enfin, ouais, j'ai trouvé ça super bien joué. Ouais, et tu sens toute la colère, tout le. Toi, tu sens que ça brasse à l'intérieur, mais il faut pas que ça sorte. Il faut pas que ça sorte. Mmh. Et ce que ne fait pas du tout son collègue, qui, lui, dégoupille, va au-delà de.
Ouvre les vannes.
Et puis c'est quand même un flic, donc il n'a pas du tout à faire ça. Et. Il y a un sujet sur la police aussi, parce que sur ce qu'elle fait, son impuissance, ce qui l'amène à pouvoir dégoupiller, alors que. Enfin, à sortir de sa un peu juridiction, enfin. Ce qu'il fait lui, ce que fait son collègue, ça ne doit pas exister. Parce que justement, ça peut aider le coupable, si c'est lui. Ouais. Pas coupable, du coup, l'accusé, enfin pas accusé non plus.
Le suspect.
Le suspect, exactement. Et on peut s'en servir, il peut s'en servir dans son dossier pour dire « Ah bah ouais, mais il n'avait pas à faire ça. Mmh. » Donc. Et je crois que ça parle aussi de ça un peu. Ça parle aussi de cette police.
Carrément.
De
police. Moi, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs films sur la police, en fait, que j'avais vu en France, en tout cas. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui parlent de police de Maïwenn. Mais moi, j'ai même préféré La nuit du 12 sur cet environnement-là. Parce qu'on est un tout petit peu moins sur des clichés, je trouve.
J'ai pas vu police, mais du coup, c'était à Paris.
Ouais.
Là, toi, on est en province, on est à Saint-Jean-de-Maurienne, Grenoble, voilà, ce coin-là. Mm-hmm. Donc je pense qu'on n'a pas le même...
pas la même ambiance, tout à fait. Ouais. Mais justement, c'est aussi ça, la réalité, quoi. Il y a différentes ambiances. Genre, un commissariat ne vit pas de la même manière, effectivement, à Paris ou vers Grenoble. Il y a différentes affaires ou différentes approches qui vont être privilégiées, différentes atmosphères. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Je trouvais que les personnages étaient humains.
Oui.
Imparfaits, avec des personnalités, comme tu le disais, sur le personnage principal, qui a une personnalité spéciale, sans être ni bien ni mauvais. Ils ont tous un peu leur failles, leurs qualités. Ça, j'ai vraiment bien aimé.
Et oui, alors pour avoir vu, donc c'est un film que vous pouvez retrouver sur Univers Ciné, qui est suivi d'une interview de Dominique Moll, qui est assez intéressante à écouter, parce que donc là, nous on parle de féminicide et tout ça, et en fait lui il a plutôt voulu mettre l'accent sur la masculinité,
ouais.
Parce qu'en fait il y a que des hommes, enfin que des hommes dans le film au début, en tout cas l'équipe est composée entièrement masculine d'ailleurs, donc effectivement 3 ans plus tard c'est une juge d'instruction qui rouvre l'affaire et il y a une collègue dans l'équipe qui a fait son arrivée. C'est bien, ça. Donc, aussi, ça montre que...
Il y a une émergence.
Voilà, il y a quelque chose qui se passe.
Ouais.
Et voilà, lui, il parle surtout de masculinité.
Mais
tout.
Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Je pense que, justement, c'était important aussi de parler de ce sujet-là sous ce prisme-là. Ça change aussi un tout petit peu, parce qu'on pourrait faire un peu le parallèle avec l'autre film qui avait fait parler de lui dans une thématique un peu similaire. C'était... après la garde ?
Bah non.
Avant la garde ?
Non plus.
Jusqu'à la garde.
Jusqu'à la garde, merci.
Heureusement qu'il est là, lui.
On avait davantage le point de vue de la femme. Là, on a un autre point de vue qui est masculin. Et c'est intéressant de se pencher dessus aussi. Sur le questionnement qui peut tarauder les hommes aussi, sur ces situations-là. Qu'est-ce qui cloche dans ce rapport homme-femme et comment l'équilibrer? Je pense que c'est bien de l'appréhender des deux côtés, côté des femmes et côté des hommes, parce que c'est que comme ça qu'on pourra éventuellement améliorer la situation, je crois.
Et après, c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on voit le film. Donc, je l'avais vu au cinéma. Mais j'avais raté les 10 premières minutes, parce que, en tant que projectionniste, on rate toujours les 10 premières minutes, parce qu'on fait la caisse, on finit la caisse. Et donc, j'avais pas vu la première scène...
L'introduction, du coup.
Voilà. Et c'est là où on voit le crime, on voit... Donc ça, j'avais pas vu ça, donc c'est vrai que ça m'a fait un choc, parce que j'avais des images, je me disais, ah ouais, mais ça va me faire plaisir de le revoir et tout. Bon, j'avais pas vu le début. Donc j'avais pas vu cette scène qui est quand même assez atroce, quoi, et on n'a pas de pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à cramer une femme qui une femme, certainement alors moi je pense pas qu'elle soit prise au hasard, enfin l'enquête le montre, ils essaient de ils vont voir plutôt les gens de son entourage, les hommes de son entourage. Mais comment on peut être amené à faire ça, quoi.
Et ce qui est dit dans le film, de manière nette, c'est que c'est tous les hommes qui ont tué Clara. Et qu'elle est victime, du coup, de tous les mecs. C'est assez cru, mais c'est assez vrai aussi. C'est ça aussi qui est symbolique et qui marche bien dans ce film-là. Je trouve que la rhétorique qui est développée est assez efficace là-dessus, où on montre bien que il y a beaucoup de victimes anonymes, malheureusement, et aussi, du coup, de tueurs anonymes aussi, qu'on n'a pas jugé. Ces histoires d'agression, de viol, de féminicide, souvent sont encore mal prises en compte dans la société. Il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus.
Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça ?
Eh bien non, je trouve qu'on s'en est pas si mal sorti à deux.
Ouais. Alors vraiment, le point de vue de Maud manque terriblement.
Ouais, c'est vrai qu'on aurait vraiment aimé l'avoir avec nous.
Mais peut-être qu'on se fera tirer les oreilles en disant « Mais vous n'avez pas parlé de ça !»
Mais c'est ça, mais oui,
pas parlé de ça.
C'est nul ! Zéro ! Non.
Envoie-nous un fax, Maud, s'il te plaît.
Je crois qu'il y a des pigeons voyageurs, ça existe encore.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Voilà. Ok, et ben bah on va gentiment boucler cette émission avec une petite ouverture sur des œuvres que nous avons visionnées récemment. Mathieu, tu avais envie de nous parler de quelque chose en particulier ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je crois que c'est dans le dernier numéro où j'avais proposé Norway of Life.
Tout à fait.
Le scénariste, je vous ai dit, mais le scénariste va proposer un film d'animation et j'étais là, et je ne retrouve pas le titre. Et le titre, c'est Titina. Et Titina, il va passer à Figeac. Donc vous allez avoir la chance de pouvoir découvrir
quel luxe.
Ce film-là, donc qui est tiré, donc c'est tiré de faits réels, donc c'est l'expédition de Rasmussen, bref, un Norvégien, voilà, qui veut aller au pôle Nord et qui va en ballon.
D'accord.
Donc c'est cette histoire-là.
Ok.
Et donc Titina, c'est le petit chien de l'architecte qui va construire le ballon et tout ça.
D'accord.
Très très beau. Moi j'ai hâte de découvrir ça.
Carrément.
Et puis j'ai vu, moi je suis pas très série, mais des fois je me laisse embarquer et donc j'avais été emballé par une série qui s'appelait Nicolas Le Floch. C'était sur les tout débuts de la police, mais du temps de la Révolution.
Ça se passe en Bretagne ou pas ?
Juste avant ou juste après, je ne sais plus. Nicolas Le Floch, pas du tout. Mais c'est peut-être un Breton qui monte à Paris, par contre.
Ah, voilà.
Et donc là, je suis tombé sur Paris Police 1900, qui parle de la police en 1900. Hein, évidemment,
oh là là.
Tout est dans le titre, il n'y a pas de surprise. Donc saison 1, et puis la saison 2 s'appelle Paris Police 1905, puisque du temps s'est passé.
Mais du coup, ça se passe en 1950 Pardon, j'essaie.
Pas du tout. Et donc j'ai découvert des acteurs assez incroyables. Le personnage de Bertillon, donc joué par Christian Eck, qui est juste incroyable. Et donc on va pouvoir revoir au cinéma... à Figeac aussi, avec, dans le film qui s'appelle La Syndicaliste, avec Isabelle Huppert. Donc voilà, petit rôle, mais je crois que c'est un acteur qui mérite à être connu vraiment, parce que, en tout cas, dans le rôle de Bertillon dans cette série, dans Paris Police, il est incroyable.
Trop bien.
Dans cette série, nous avons aussi Evelyne Brochu.
Mais bien sûr.
Mais qui est Evelyne Brochu ? Donc, Evelyne Brochu, donc elle crève l'écran, c'est vraiment une des personnages principales. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne l'a pas vue ailleurs ? Ouais, c'est une femme qui a un certain âge. Voilà.
À 203 ans.
Elle pourrait avoir une carrière d'actrice en France et tout. Je me suis dit, mais c'est marrant, on ne l'a pas vue, on ne connaît pas et tout. Et c'est normal. Elle est canadienne. Elle a fait des films avec. Au Québec surtout, ou avec un accent.
Un accent, oui.
Alors là, pas du tout, pas d'accent et tout. Et donc, extrêmement belle aussi. Enfin, et ouais, rien que pour ça, c'est à voir Paris Police 1900 et 1905. Moi, j'ai été emballé.
Trop bien. Merci pour ces recommandations.
Avec plaisir.
Moi, j'ai pas grand-chose à vous conseiller. J'ai été bien occupé ce mois de janvier. Ça a été bien chargé. Mais quand même, je voulais vous parler d'un film en rapport avec le film dont je vous avais parlé le mois dernier, qui était Zatoichi de Takeshi Kitano. Je me suis rendu compte que sur Netflix, il y avait un biopic sur la jeunesse de Takeshi Kitano. Ça s'appelle Kid Asakusa. Ou Asakusa Kid. Non, Kid Asakusa. Donc assez sympa si vous aimez bien le cinéaste Takeshi Kitano, l'artiste Takeshi Kitano. C'est assez chouette de découvrir un peu plus en détail son adolescence, la fin de son adolescence et le début de son âge adulte. Comment est-ce qu'il est arrivé à...
Comment est-ce qu'il ne devient pas drôle?
C'est ça, exactement. Comment il est arrivé à monter sur les planches, par quoi il est passé. Je trouvais ça assez chouette. Voilà, c'est tout pour moi.
Alors moi, je vais faire une petite parenthèse, parce que j'ai oublié de parler de Bully Lanner.
Ah oui.
Bully Lanner, que moi, j'ai commencé à connaître avec des films plutôt marrants. Enfin, je veux dire, il a une forme comique, une force comique assez impressionnante, je trouve. Belge. Il a fait pas mal de films belges.
Tout à fait.
Et puis bah là, du coup, de le retrouver. Enfin, plus ça va, plus on retrouve dans des rôles sérieux,
grave.
Grave, ouais. Et en fait, plus ça va, plus je le trouve super bon acteur, quoi. Enfin, il a une tronche, une tronche, un physique. Il a une petite expérience maintenant, et je le trouve vraiment très très bon dans ce qu'il fait. Et ouais, voilà.
Mais carrément, il y a plusieurs acteurs qui sont très très bons dans ce film. Vraiment.
Ouais.
Dans différents rôles. J'ai bien aimé la juge, moi. La juge, je l'ai trouvée.
Ah bah oui, il y a Anouk Grimbert aussi, ouais, qu'on voit pas assez souvent. Ouais. Qu'on a vu dans Kaamelott aussi.
Je connais pas.
Très peu. Kaamelott.
Pendez-moi.
Oui, pendez-le.
Non, taisez-vous, parce que là, ça.
Alors, on va du coup embrayer gentiment sur le programme de la prochaine fois. Au mois de mars, sur Antenne Doc, on a pour habitude de consacrer une semaine aux droits des femmes. Et du coup, pour l'occasion, Pizza 3 Métrages va aussi proposer 3 films réalisés par des réalisatrices. Eh oui, incroyable. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire ton film ?
Tout à fait. Alors, j'ai regardé ma filmothèque et ça a été compliqué, j'avoue.
C'est pas si facile.
Parce que je n'ai pas beaucoup de films faits par des femmes, mais j'en ai un qui s'appelle La Belle Verte, qui a été réalisé par Colline Serrault. Que j'ai vu et revu, et que j'ai des répliques dont je me sers au quotidien, on va dire. Voilà, tellement c'est un film culte pour moi.
Il communique donc uniquement comme ça.
La Belle Verte.
Très bien, merci. Je ne l'ai pas vu, je vais avoir plaisir à le découvrir. Maud nous a communiqué son film par ChatGPT. Son film, c'est La Naissance des Pieuvres de Céline Sciamma. Et le mien, vous allez me détester pour ça, mais c'est comme ça, c'est Le Jeu, ma pauvre Lucette. Le film, c'est pas le nom du film.
Arrête, moi je connais pas.
Le film, c'est Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles.
Attends, c'est le nom du film, toi ?
C'est le nom du film.
Attends, je prends des notes.
Ouais. Je t'enverrai un fax.
Ouais, s'il te plaît.
Un fax, non mais des fois, faut vraiment qu'il aille mal.
C'est réalisé par Chantal Ackerman en 1976. Eh bien, c'était un plaisir de passer cette émission avec toi, Mathieu, et avec vous toutes et tous.
Mais pareil. Et alors oui, mois de mars, pourquoi ? Mais parce qu'il y a le 8 mars.
C'est ça, c'est la semaine.
Qui n'est pas la journée de la femme.
Non.
Non, qui est la journée internationale
la semaine
des droits de la femme.
Des droits de la femme.
Voilà, dans son intégralité, arrêtez de parler de la journée des femmes.
C'est ça, exactement.
Voilà, c'est des femmes.
On va se retrouver avec Maud et Mathieu la prochaine fois. Ça sera le 2 mars. À 21h, comme d'habitude, le premier jeudi du mois, c'est Pizza 3 Métrages. On vous dit à très vite.
Ouais, à tout bientôt.
À tout bientôt. Bon ciné, bon film et à très vite.
Ciao.
Ciao.
Tu mi fai girare come fosse una bambola. Poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi. Regina.